comme cette foule que Jésus a vue, il a dit, il fut ému de compassion pour elle et il les a vues comme des brebis sans berger. Et c'était normalement son jour de repos. Et finalement, c'est devenu un jour où il nourrit la multitude. Et le Seigneur est là, il veut nous apporter aussi. Nous allons ouvrir sa parole dans le livre des Chroniques, les Chroniques des Rois, donc le deuxième livre des Chroniques des Rois, et au chapitre 31 ce matin. Deux Chroniques, chapitre 31. Donc nous sommes c'est la dernière étude sur une série que nous avons tirée de ce passage. Donc deux chroniques 29, 30 et 31. C'est le roi Ézéchias qui est devenu roi. Et la première chose qu'il a faite en devenant roi, c'était d'ouvrir les portes du temple, qu'il a appelé la maison de Dieu. Et ils ont purifié le temple et ils ont réinstauré l'adoration du Dieu d'Israël, du seul Dieu pour le monde. Et ensuite, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est célébrer la Pâque, qui rappelle leur libération de l'Égypte, mais la libération du peuple. Et c'était justement durant cette fête de Pâques que Jésus, dans sa compassion, a choisi de mourir sur la croix aussi, parce que depuis, Pâques est un jour de libération aussi pour celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Et donc nous avions vu comment les portes ont été ouvertes, comment on a réinstauré l'adoration, les sacrifices, et dans l'ordre, et selon l'enseignement qu'ils avaient reçu de Moïse. Et puis après, il y a eu, bien sûr, cette recherche de communion devant le Seigneur et avec le peuple, et dans la présence de Dieu, et une multitude. Nous avons vu dans le chapitre 30 qu'une multitude, un peuple nombreux, s'était réuni à Jérusalem pour célébrer cette fête. Il y a eu une immense assemblée, il nous dit. Et nous arrivons au chapitre 31. Donc, la fête est terminée à la fin du chapitre 30. Ils ont même prolongé la Pâque au lieu de célébrer pendant 7 jours. Ils l'ont célébré pendant 14 jours. Et c'était un moment extraordinaire. Il nous dit même qu'il n'y avait jamais eu une célébration pareille depuis Salomon. Donc, essayez d'imaginer cette expérience, cette rencontre, ce moment où à la fin, quand vous saviez que c'était la fin et que vous dites « Ah, ça a été bon, ça a été agréable de demeurer dans la présence du Seigneur, d'être avec les frères et sœurs et de recevoir, et vous avez été ressourcés et vous avez dit, ça vous rappelait même peut-être l'expérience de Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de Transfiguration, ils étaient là et « Ah, si on pouvait faire durer cette expérience, ils étaient prêts à mettre des tabernacles et bon... » C'est pas parce que l'expérience était telle que Pierre n'a pas dit une bêtise, mais voilà, hein, c'est nous, c'est l'être humain, hein, on se retrouve là. Mais après, il fallait redescendre, et redescendre dans la vallée. Et ici, entre le chapitre 30 et 31, eh bien normalement, on redescend dans la vallée, tout le monde va rentrer chez lui, on rentre, on dit « Aïe, je rentre à mes problèmes, je rentre à mes situations, je rentre à... » Et ça peut être un moment déprimant même. Même si plus l'expérience a été glorieuse, plus le fait de rentrer chez soi peut être déprimant. Et alors on peut ne rien faire, mais on dit « c'est comme ça, hein, c'est ça la vie », et puis on part. Et on rentre à la maison et puis on dit, au moins je garde un bon souvenir. Et j'ai plusieurs options. Hein, quand j'ai vécu une expérience comme ça, il y a plusieurs options qui sont devant moi. Soit je dis, ben, je conserve le souvenir, et puis de temps en temps, je me dis, ah, c'était pas mal. Et puis je rencontre quelqu'un qui était là, je dis, tu te souviens, c'était vraiment bien là-bas, à la retraite d'Hanot. Ah, c'était super. Ou c'était, on était là-bas, tu te rends compte, quand on était, il y avait ce rassemblement des églises, c'était extraordinaire. Et puis on se rappelle ça, puis c'est un souvenir, un bon souvenir. On peut se limiter à cela. On peut se dire aussi, il faudra le refaire. On le dit souvent, à la fin d'une expérience comme ça, on dit, ah, il faudra le refaire, peut-être même l'année prochaine. Et on veut revivre ce qu'on a vécu, on essaie de le reproduire. C'est très humain. Et ici, Ézéchias, celui, il propose une autre option dans ce chapitre. Il dit, au lieu de mettre un point final à une expérience qui a été vécue avec le Seigneur, et puis de conserver seulement un bon souvenir, et puis de se faire une promesse, il dit, mais vous pouvez en faire un jour où vous prenez une nouvelle orientation. Et finalement, parce que de ce jour-là, vous dites, maintenant je vais vivre autrement, et je vais faire... Tout d'un coup, vous faites durer l'expérience durant toute l'année. Et c'est un peu ce que la Bible nous propose par ce chapitre 31. Dites, écoutez, quand vous avez rencontré le Seigneur, ça a été un grand jour. Quand vous avez eu un temps avec les frères et sœurs, c'était un grand jour. Peut-être que vous avez un moment, vous avez ouvert votre Bible et puis le Seigneur vous a montré quelque chose et ah! Eh bien, il dit, ben, vous pouvez ne rien faire, mais vous pouvez aussi prendre une décision et prendre une résolution et prendre une nouvelle orientation. Et ainsi, faire vivre l'expérience et rendre toute l'expérience encore plus utile. Et donc, dans ce chapitre 31 de Chroniques, on pourrait lire ça et puis vous dites, oh, c'est pénible ça, il est en train de parler des noms que je ne connais pas, et puis c'est l'organisation, et c'est la structure, c'est ceci, cela. Et finalement, dire, non, mais Ézéchias, là, il est un modèle pour nous, et il nous propose comment poursuivre cette expérience qu'ils ont eue à Jérusalem. Et donc, après avoir réouvert la maison de Dieu, après la célébration de la Pâque, eh bien, pour Ézéchias, ce n'était pas une fin en soi. Il aurait pu se dire, mais bravo, j'ai réussi, on a ouvert le temple, et la célébration est là, les prêtres sont là, et puis on voit la fumée qui monte de l'autel, et tout est bien, ah, gloire à Dieu, c'est très bien. Ézéchias n'est pas de ce genre-là. Et nous ne devons pas être de ce genre-là. Ézéchias dit... Maintenant, Juda va vivre autrement. Il y a eu un before, hein, un avant, et puis il y a un after, un après. Hein, il veut cela. Et c'est ce que nous avons besoin de nous aussi, pour nous, dans nos vies aussi. Hein, constamment, hein, après. Et donc, la première chose qui se passe, et c'est extraordinaire, c'est ce verset 1 du chapitre 31, le verset 1. Déjà, c'est une première chose. Je vous fais remarquer, regardez en lisant le passage, c'est que ce n'est pas un ordre d'Ézéchias. C'est une réaction spontanée du peuple. C'est autre chose. Hein. Regardez, il dit, lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et dans Manassé. Puis tout le peuple, tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Premièrement, ce n'est pas Ézéchias qui leur dit de le faire. Il y a eu une œuvre dans leur cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ézéchias avait donné l'ordre que le temple soit purifié. Ils avaient abattu tous les idoles et tout ça, on a vu ça dimanche dernier, dans Jérusalem, avant la célébration de la Pâque. Il faut mettre de l'ordre dans sa... Vous savez, et je l'ai dit la semaine dernière, et je le répète encore, on ne vient pas dans la présence du Seigneur, puis on dit, bon, on va mettre de l'ambiance, allumer la musique, on va y aller, parce qu'on veut faire de la louange. Non, non. C'est d'abord, on fait le ménage, on purifie le cœur, on réoriente les pensées, et puis ensuite, l'adoration vient. Et là, le peuple continue, il s'est dit, ben on repart chez nous, on repart, hein, on va vivre dans le pays, on n'est plus à Jérusalem, mais il faut que ça soit purifié aussi. Et là, la réaction normale qu'ils vont faire, ils vont aller partout dans le pays, tous les hauts lieux, toutes les statues, toutes les idoles, tous les hôtels, tout, ils vont tout démolir. On n'en a plus besoin. On a Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David. Il dit, ils ont fait le ménage. Une première chose, lorsque nous avons vécu une expérience avec le Seigneur nous a montré quelque chose, et comme je l'ai décrit tout à l'heure, eh bien la première chose, c'est aller de regarder dans sa vie. Dimanche dernier, je vous disais, c'est pas seulement le dimanche, mais allez voir ce qui se passe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi de votre vie. Et allez voir s'il n'y a pas du ménage à faire. S'il n'y a pas certains autels qui occupent une place dans votre cœur, des choses qui prennent la place de Dieu. Hein, c'est ça, une idole. C'est quelque chose qui me distrait de Dieu. C'est une chose qui, lorsque je suis avec cela, je ne peux pas penser à Dieu. Je ne peux plus penser à Dieu. Si vous vous trouvez dans un lieu, vous dites, ah ici, c'est, oh, je ne peux pas prier ici. Eh bien, vous n'avez rien à faire là. C'est, vous savez, il faut aller voir, il faut faire le ménage. Hein. Pour eux, c'était matériel dans le sens d'abattre des... Mais pour nous, nos idoles ne sont pas toujours matérielles. Ce sont parfois des passions, ce sont parfois des occupations, ce sont parfois des dadas, hein, parfois. Ça peut être des fréquentations, ça peut être des tas de choses. Mais dis, mais oui, je ne peux pas penser à Dieu quand je suis là. Quand je suis avec celui-là. Alors il y a un problème. Ou tu l'annonces Dieu, ou tu partages Dieu avec lui. Mais si tu peux faire ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que tu as à faire avec? Et la première chose pour eux, c'est d'aller purifier le pays. Ézéchias, c'était un leader, c'était un meneur, dans le sens que il a dit, bon, je prends l'initiative, on commence avec le temple, on commence avec Jérusalem, mais la suite, c'est vous. Et le peuple l'a fait spontanément. Et ils ont été, avant de rentrer chez eux, ils ont été purifier le pays. Et puis ensuite, chacun est rentré dans sa ville. Oh, que le Seigneur nous aide à la fin d'une expérience que Dieu, dans sa grâce, nous a fait vivre quelque chose. Il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses que je faisais, que je ne fais plus. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Et maintenant, je veux être libre pour Dieu. Et les gens qui sont embêtés, ils disent, ouais, quand je commence à aller à l'église et tout ça, après, on ne peut plus rien faire, on peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Oh, non, non, c'est vous qui ne pouvez rien faire. Les gens du monde, ils disent, tu viens à l'église? Oh non, non, non. Il n'est pas libre de venir à l'église. Il ne se sent pas à l'aise. Tu veux lire la Bible? Non, non, non. Et qu'est-ce que tu lis? Ah, ben, je lis. Il dit n'importe quoi, mais sauf la Bible. Il n'est pas libre. Moi, je peux lire le journal et puis je peux lire la Bible. Je suis libre. En fait, quand je lis le journal, j'ai plus envie de lire la Bible. Hein? Parce que c'est déprimant. Hein? Vous écoutez les informations, notre pauvre France, et puis si on est américain, pauvre Amérique. Et puis après, si vous êtes ailleurs, vous dites pauvre de chez moi. Mais après, on lève les yeux vers le Seigneur. Et il y a le rayon soleil qui rassure. Donc la première chose, après cette expérience, où on a vécu quelque chose avec Dieu, premièrement, eh bien le peuple spontanément eh bien, il a fait un ménage, la purification du territoire. Et ici, nous avons ce récit, mais vous savez, il y a dans Deux Rois, chapitre 18, nous avons un autre récit de cette purification. Deux Rois 18 et verset, on va lire les premiers versets. Donc voilà, verset 3, je commence à lire verset 3, nous allons lire jusqu'au verset 4. Il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les autels, mit en pièces, et regardez bien, il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusque-là brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Donc dans ce récit, un petit détail supplémentaire, là, il a dit, parmi toutes les autres qu'ils ont détruits, hein, ce qu'ils avaient copié de chez les voisins et tout cela, il dit, mais il y avait ce poteau sur lequel avait été fixé le serpent d'airain. Récit qui remonte dans Nombre, et dans Nombre 21, là où les enfants d'Israël s'étaient révoltés contre Dieu, et donc il y avait eu des serpents qui sont venus, serpents venimeux, et donc le peuple a crié à Moïse, « Moïse, enlève-nous ces serpents-là » Et au lieu de chasser les serpents, Dieu a dit à Moïse, « Écoute, tu feras un serpent d'airain que tu élèveras sur un poteau. Et puis, tu diras au peuple que celui qui aura été mordu par ce serpent, par un serpent, eh bien, s'il se tourne vers ce serpent d'airain, exerçant ainsi la foi, dans le commandement de Dieu, pas confiance dans ce serpent d'airain, parce que le serpent d'airain, il ne peut rien faire, mais c'est cet acte symbolique qui exprime la foi en une promesse de Dieu, où Dieu a dit, celui qui regardera vers ce serpent, eh bien, aura la vie sauve. C'est l'acte de foi qui sauvait, hein, ce n'était pas le serpent d'airain. Et donc, combien de personnes ont eu la vie sauve en regardant vers ce serpent? Et alors, après, il n'y a plus rien de dit chez Moïse, il n'y a plus rien de dit, il n'y a plus rien jusqu'à ce moment-là. Mais ils avaient conservé ce serpent d'airain, en souvenir, vous savez, hein, c'est étonnant avec quoi on remplit la maison, hein, avec de toutes sortes de souvenirs. Et ils avaient ramené ça, et puis ils l'avaient planté en Canaan, donc depuis le désert, ils trimbalaient ça, puis ils avaient trouvé un endroit où ils l'avaient mis. Et puis, avec le temps, ils ont commencé à dire, écoute, ce serpent, il nous a fait du bien une fois, peut-être il peut faire deux fois. Hein. Puis on commençait à offrir des parfums, puis c'est devenu un... Vous savez, Ézéchias, il a dit, même si c'est quelque chose que Moïse a ordonné, et qui a été fait par Moïse, mais si c'est en train de prendre la place de Dieu, détruis-le. Vous savez, des fois, il y a des bonnes choses qu'il faut enlever de sa vie. Des choses en soi... Elles sont très bien. Et pour quelqu'un d'autre, il dit, mais non, mais ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas un péché, ça. C'est pas un problème. Tu aimes faire du vélo, tu fais du vélo, hein, c'est pas... Oui, mais je fais toujours le dimanche matin, je peux pas aller au culte. Ah, ça, c'est un autre problème. Le problème, c'est pas le vélo, là, c'est le problème, c'est la place du vélo dans ton cœur. Hein, donc, des fois, c'est des bonnes choses, mais qui ont pris... une place qu'il ne devrait pas prendre. Et donc ici, il y a eu ce premier. Ézéchias, il a compris, il a dit ça aussi. Oup. Même si c'est un souvenir de chez Moïse, on détruit. On enlève tout ce qui dérange, tout ce qui distrait, tout ce qui détourne. La prochaine fois où ce serpent d'airain est mentionné dans la Bible, c'est Jésus qui en parle. Et c'est ce soir-là où il est assis avec Nicodème. Nicodème qui connaît très bien l'Ancien Testament, donc il connaît très bien ce récit. Et il lui dit, tu sais, Nicodème, je sais que tu as du mal à comprendre ce que je te dis. Écoute, tu te souviens de ce serpent d'airain que Moïse a ordonné qu'il soit dressé, qui a été élevé comme ça, et puis il suffisait que les gens se tournent vers ce serpent d'airain, et un acte de foi, et ils avaient la vie sauve. Nicodème dit, oui, je la connais hein, depuis que j'étais au Bribon. Hein. Et il dit, mais tu sais, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il a dit, il sera élevé de la même manière. Et pour lui, celui qui croulera sous la peine de ses péchés, sous le poids de sa culpabilité, eh bien, s'il se tourne vers le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui est suspendu à cette croix, eh bien, il aura la vie sauve. Mais pas seulement pour la vie, mais pour l'éternité. Il dit de même, c'est exactement sa fonction de la même manière. C'est pas le poteau qui a sauvé, c'est pas le serpent d'airain qui a sauvé. Il dit, et dans ce cas-là, ce ne sera pas la croix qui sauve, ce sera cette foi en cet acte, ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, où il meurt comme un sacrifice pour le péché. Il dit, c'est cet acte de foi, cette confiance, parce que Dieu a dit que celui qui fait appel à mon Fils, eh bien, sera sauvé. Celui qui croira aura la vie. Il dit, c'est exactement pareil. Et donc, Ézéchias a détruit le symbole. Ah oui, mais Dieu a préservé le vrai Jésus-Christ. Et lui, il est toujours. Et lui, on le place dans une partie centrale de notre vie. Et parce que Jésus a dit lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne soyez pas embêtés par le fait qu'il a dit « nul ne vient ». Vous dites « ah oui, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est vraiment restrictif ». Écoutez, remerciez Dieu qu'il y a un chemin, parce qu'il n'y en avait pas avant. Quand vous rentrez dans une maison, vous avez besoin de combien de portes? Il suffit de se présenter à la porte d'entrée, puis il n'y avait pas de problème. C'est pas la peine de se dire « ouais, mais bon, cette maison, elle n'a qu'une seule porte d'entrée, hein, c'est pas, ça m'embête ». Non, non, ben le ciel. Merci Seigneur, gloire à Dieu, il y a une porte, et elle est ouverte en plus, et il reçoit tous ceux qui viennent. Revenons à 2 Chroniques 31, et ce qu'on voit à partir du verset 2, hein. Je lis le verset 2, ça vous donne tout de suite une idée de ce qui se passe par la suite. Après, il développe. Il dit, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs, ou des prêtres, et des lévites, c'est la tribu qui faisait le service du temple, d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants, pour la louange, aux portes du camp de l'Éternel. Donc là, Ézéchias prend une initiative. On a vécu de beaux jours. C'était un Pâques comme Pâques n'avait jamais été célébré depuis des années. Il dit, mais maintenant, c'est le moment de structurer, pour faire durer notre attachement à Dieu. Vous savez, les êtres humains, quand ils... S'il n'y a pas des résolutions, s'il n'y a pas des engagements, eh ben, on est comme une bouteille jetée sur la mer, hein, si on part au gré du vent. Mais si Ézéchias se dit, il faut que tu prennes des résolutions, il faut que tu décides. Hein, si votre vie chrétienne se résout à... Ben, quand j'ai envie, ben, je lis la Bible. Quand j'ai envie, je pense à Dieu. Quand j'ai envie, le truc du hasard comme ça, ben, finalement, ça se fait très peu. Et puis, ça se fera de moins en moins, jusqu'à ce que ça ne se fasse plus. Et puis, après, on se retrouve, on commence à ressembler aux gens autour de nous. Et ça, c'est même pour l'enfant de Dieu. Hein. Et donc, Ézéchias s'est dit, on va structurer les choses. tel que Moïse l'avait enseigné. Et si Dieu donne des structures, ce n'est pas parce que lui-même a des structures, mais c'est parce que l'être humain a tendance à errer. Et donc, il a besoin d'être structuré. Je ne parle pas d'une religion, hein, je ne parle pas de règles, je parle d'engagement. Et donc, il commence, Ézéchias commence d'abord à instaurer ce que David avait déjà fait, qui était selon la loi de Moïse, hein, le verset 3, le roi donna une portion de ses biens pour l'Holocauste, pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Donc, sa première préoccupation, c'est de faire comme Dieu a ordonné. C'est pas comme il dit, ben écoute, on a des bonnes intentions, on va réfléchir, on va faire quelque chose pour Dieu. C'est comme je vous ai dit, il y a deux dimanches, je vous dis, c'est ça que Caïn a fait. Il a dit, bon, ben moi je vais voir ce que j'ai envie de faire, oh, ben, je vais offrir un sacrifice de cette manière-là à Dieu. Il a dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux ce que je t'ai demandé. Et donc, c'est d'où l'importance pour nous de lire la parole, de savoir exactement ce que Dieu a, ce qu'il attend de nous, pour pouvoir le lui donner. Et donc, et ce que je trouve extraordinaire dans ce verset 3, c'est que le roi dit, bon, moi le premier, je donne pour que ça puisse fonctionner. C'est une manière d'être un meneur. C'est d'y aller d'abord soi-même. Un bon général marche devant ses hommes, pas derrière. Un bon berger marche devant ses brebis. Lui, il fait le premier pas. Et il donne pour assurer la continuité de l'adoration dans le temple. Il donne l'exemple, il pourvoit pour que cela puisse continuer, pour que toutes les fêtes puissent être célébrées. Tout ce que Dieu a demandé, il pourvoit. Mais regardez la réaction du peuple. Verset 4, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Parce que c'était, Moïse avait enseigné, il a dit, vous avez la dîme à donner, vous avez cette portion-là, vous avez ceci, cela. Il dit, donnez tout ce que Moïse a donné, demandez, eh bien, donnez-le, hein, faites ceci. Vous savez, là où on donne, on a notre cœur. Hein. C'est facile. Ah oh, ouais, moi je suis pour. Hein, je suis pour cette cause-là, je suis pour. Mais si tu mets jamais de l'argent dedans, tu es pas pour longtemps. Mais si tu t'investis, si tu donnes de ce que tu as pour cette cause-là, là tu resteras engagé bon plus longtemps. Et là, ces hommes, eh bien, Ézéchias dit, ben, commencez à donner pour assurer la continuité. Mais, vous savez, en donnant, eh bien, ça vous engage. Ça fera une œuvre en vous. Hein. Si on a cette idée, ben, Dieu pourvoira, hein, Dieu pourvoira, Dieu a tout. Non, Dieu, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et lorsque je donne, lorsque je m'investis, lorsque je donne de mon temps, je donne de mes biens, je donne de mes capacités, je me donne de mon conseil, de mon expérience, peu importe ce qui est utile. Lorsque je donne, je m'investis. Et il nous dit, dans ce verset 5, il dit, « Lorsque les choses furent répandues, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel. » Et tous les produits des champs, ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Parce que le système était fonctionnel, que tout, la tribu de Lévite recevait des autres tribus, des 11 autres tribus. C'est eux qui fournissaient de quoi vivre à la tribu de Lévite et aux prêtres. Hein, donc c'était comme ça que c'était établi. Et si c'est ce qui était arrivé par le passé, c'est que l'état spirituel du peuple, des tribus, n'avait pas été entretenu. Donc, ils ont cessé de donner. Et comme les prêtres et les lévites ne recevaient plus, ils ont été chercher du travail. Et puis, finalement, plus rien ne s'est passé. Hein? Donc, c'est la responsabilité des prêtres d'encourager le peuple à rester près du Seigneur. Parce que quand ils sont engagés vis-à-vis du Seigneur, ils apportaient. Et puis après, la réaction du peuple, c'était d'apporter, d'entretenir la chose. C'était comme ça que c'était structuré dans l'Ancien Testament. Et la leçon qu'on tire, pour nous, c'est l'importance de nous engager. C'est pas, les paroles, ça coûte pas cher. Mais les actes, ça s'engage. Après, ils ont commencé à rassembler et le peuple était tellement généreux à apporter qu'au verset 8, il nous dit « Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. » Ils sont venus voir, ils ont vu l'abondance qui était là et puis ça commençait à cumuler, c'était plus que ce qui était nécessaire. Et ils ont béni Dieu parce que si Dieu n'agissait pas dans les cœurs, si Dieu n'avait pas apporté de la joie, de la paix et dans ce peuple, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Donc, il bénit Dieu, puis après, il bénit le peuple qui a répondu à l'œuvre de Dieu. Et c'est une chose qui est tout à fait normale. Et même si aujourd'hui, dans l'Église, on n'a pas les mêmes structures qu'ils avaient dans Israël, mais les principes restent vrais, c'est que, comme Jésus a dit, il a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Là où tu mets ton argent, là où tu mets ton bien, là où tu mets ton temps, là où tu mets, ben, ton cœur sera là. C'est un principe chez l'être humain. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, c'est une manière, c'est une résolution qu'on prend. On dit, ben moi, je m'engage là. Je m'investis là parce que je veux rester fidèle au Seigneur. Je parlais avec le frère Michel tout à l'heure dans la voiture et puis il dit, mais de nos jours, les gens ne s'engagent plus. Et me dit, ouais, bah, je viendrai quand je peux, quand je penserai à toi, le Seigneur me rappellera de toi, et puis je pense. Bah, c'est pas de l'engagement, ça. Mais parce qu'il y a très peu d'investis. Ça coûte pas cher. Ça ne nous coûte pas, donc ça n'engage pas. Alors il y a ce principe qui est là, qui est que Ézéchias a compris et qu'il a encouragé. Et c'est le principe qui est toujours vrai aujourd'hui. C'est que là où je m'investis, là où je me donne, là où je... Eh bien, mon cœur est là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Et ensuite, tellement que le peuple a porté, ben, il fallait commencer à... Ils ont créé des chambres où ils ont stocké... le grain pour le restant de l'année, tout ce qu'ils avaient apporté. Ils ont commencé à stocker tout cela. Et après, Ézéchias a structuré, il a nommé des responsables pour s'occuper de la gestion de tout cela. Donc il y avait deux frères. Il a dit, vous êtes deux frères. L'un est responsable, le deuxième c'est l'assistant. Et après, vous avez une dizaine d'hommes. Et ces 10 hommes, c'est eux qui étaient chargés de répartir les dons parmi les Lévites. Et après, il a nommé un autre. Il a dit, toi, tu travailleras. Voilà, ces 6 hommes-là. Et c'est à travers eux, ils feront la gestion pour pourvoir aux prêtres. Et Ézéchias a tout. Il a nommé des personnes. Il dit, vous serez responsables, vous rendrez des comptes. Et vous engagerez. Il a mis une structure qui permettrait à ce que avait été établi au début, et bien pour que cela continue. Et donc, c'est très important. Et le principe, on le retient aussi pour nous-mêmes dans nos vies, c'est que si je veux faire durer quelque chose, alors il faut que je donne de la structure qui m'engage. Et je m'engage. Je saute pas mal de détails, mais je veux arriver à un point, il y a un mot clé qu'on retrouve 4 fois dans ce chapitre. Peut-être vous l'avez remarqué, mais c'est le mot « fidèlement ». On le trouve au verset 31. Il dit, et il dit au peuple et aux habitants de Jérusalem de donner les portions de sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, pourvoyez pour que eux restent fidèles et qu'ils appliquent la loi fidèlement. C'est dire, ah oui, mais vous êtes prêtre, hein, il faut suivre Dieu. Non, il dit, aidez-les, à suivre Dieu. Ce sont des humains, ils sont faibles. Soutenez-les. Hein? On dirait dans nos églises baptistes, on dirait, soyez derrière vos pasteurs. Dans nos assemblées de frères, on a des anciens, soutenez-les. Quelle que soit la structure de nos assemblées, mais le principe reste le vrai. Il dit, mais engagez-vous, aidez-les à rester fidèles à la loi de l'Éternel. Remerciez-les, encouragez-les, dites-leur comment le Seigneur s'est servi d'eux pour... Ça les encourage pour qu'ils restent fidèles et attachés à la parole et que ça les motive à aller approfondir encore plus dans la parole. Au verset 12, il dit « On y apporta fidèlement les offrandes, les dîmes et les choses saintes. » On apporta fidèlement, ça veut dire régulièrement. C'est pas seulement un grand coup et puis après on oublie. Non, non, la constance. On n'a pas besoin des grands tapes à l'œil, on a besoin de quelque chose de régulier, fidèlement. Au verset 15, il nous dit, dans les villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, Shemaja, Amaja, Shekania, étaient placés sous la direction pour faire fidèlement la distribution à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Donc c'est des hommes à qui on a confié une charge, de distribuer les biens aux familles de prêtres, eh bien, mais pour qu'ils le fassent fidèlement. C'est-à-dire pas seulement... vous savez, quand beaucoup de nous, on parle toujours des résolutions qu'on prend le 1er janvier, là, et puis après, ça marche pendant un peu de temps, puis je vais aller courir 2 fois par semaine. Après, ça devient je cours 1 fois par semaine, et après, je cours plus. Et c'est 1 fois par mois, et puis après, c'est faut que je reprenne, après, on recommence à courir, et puis après, Il dit non, fidèlement. C'est-à-dire, ne promettez pas à Dieu l'impossible, engagez-vous, mais restez. C'est ce que Dieu désire. Dieu est un Dieu fidèle, c'est un attribut de Dieu, la fidélité. Eh bien, il dit alors, si. L'attribut de Dieu, c'est la fidélité. Une caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est de servir fidèlement. Et donc, ne vous engagez pas à prier une nuit entière tous les 3 jours. Vous n'allez pas tenir, ce n'est pas la peine. Mais il dit déjà commence avec 10 minutes par jour, mais fais-le fidèlement. Et finalement, tu fais le total, il y aura plus d'heures. Parce que quand c'est toute la nuit, il y a certaines de ces heures-là qui ne comptent pas beaucoup pour de la prière, hein, même si je suis debout. Hein, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il dit, constance, engagez-vous et gardez fidèlement. Et puis après, au verset 18, il dit à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs filles, car ils consacraient... Il se consacrait fidèlement au service du sanctuaire. Il se consacrait fidèlement au service du sanctuaire. C'est-à-dire, c'était quelque chose... C'était pas on se consacre 1 fois pour toutes. Non, non, c'est régulièrement on se consacre. On dit, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis tout à toi. C'est pas parce qu'on s'est égaré seulement, mais c'est cet engagement. J'ai lu quelqu'un qui disait... Il dit, lisez les prières de Jésus, il ne demande pas, il dit, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi des raisins, donne-moi ceci, et puis ferme la bouche de Pierre, et puis, ce n'est pas des genres de prières comme ça que Jésus faisait. Ces prières, il allait chercher, il parlait au Père, mais c'était l'échange, c'était la communion, c'était le partage, c'était la synchronisation, c'était, et vous savez, c'est ce que il dit fidèlement, va passer du temps avec ton Père. On dit au mari, on dit, écoute, prends du temps avec ton épouse. Un peu où tu lui parles et un peu où tu l'écoutes. La deuxième partie, c'est un peu plus difficile. Mais il dit, mais aussi, tu dois passer du temps. Si tu aimes le Seigneur, tu passes du temps avec lui. Un peu tu lui parles, beaucoup tu l'écoutes. Seigneur parle de la fidélité et il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il dit je vous connais, je vous ai créé, je vous ai vu vivre, je sais comment vous êtes. Commencez à être fidèle dans les petites choses. Il dit, celui qui apprend à être fidèle, c'est-à-dire constant, régulier, il garde ses engagements dans les petits engagements, eh bien, il le sera dans les grands engagements. Comment faire durer une expérience extraordinaire qu'on a vécue avec le Seigneur? C'est par des engagements et la fidélité. Et là, on peut faire durer les choses, pas seulement un mois, pas seulement une année, mais une vie jusqu'au retour du Seigneur. Et ce chapitre 31 termine avec un beau passage. C'est un peu une belle conclusion. Après les trois chapitres, 29, 30 et 31, Ézéchias a fait tout cela. Et puis regardez le verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour ses commandements. Ça, je vous laisse méditer là-dessus, cette semaine, et dire, ben voilà, ça, on a l'impression que Dieu fait un compliment. Ça lui plaît. Eh ben, vous voulez avoir le sourire de Dieu ? Faites la même chose. Si ça, c'est ça qui lui plaît, ben faites-le. Hein? On a une expression en anglais qui dit « Il ne faut pas gratter là où ça ne démange pas. » Il dit « Si tu veux répondre à un besoin, eh ben réponds au besoin, pas à quelque chose à côté, pas autre chose. Faisons ce que Dieu demande. » Il dit « Celui qui m'aime garde mes commandements. » C'est tout, c'est pas plus compliqué que cela. Alors, je rappelle tout cela, c'est que, parce qu'on avait donné ce titre à cette série, c'est « Recette pour une restauration spirituelle totale ». Eh bien, la recette, c'est « Commence déjà par ouvrir le temple au Seigneur, rétablis l'adoration, recommence à lire ta Bible, recommence à prier, recommence à te retrouver avec les frères et sœurs parce que c'est un grand besoin quand on veut suivre le Seigneur. Tu vivras, si tu vis une expérience extraordinaire avec le Seigneur parce que tu te reconsacres et puis tu... Voilà. Il dit, ben écoute, après, prends des résolutions sans promettre l'impossible, mais quelque chose de régulier et garde-le fidèlement. Et il dit, là, il y aura une restauration totale avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Parce que de nos jours, où on est à 100% pour le Seigneur, où on ne l'est pas. Parce que la vie, elle est trop dure. Il y a trop de tentations, il y a trop de complications, il y a trop de trucs. Il faut être à fond pour le Seigneur. Et c'est la seule manière qu'on peut continuer. Et si on veut continuer, jusqu'à son retour. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Ah Seigneur, si tu fais de moi un prédicateur, un évangéliste, ah oh là, je te serai fidèle. Il dit, sois déjà fidèle avec les lectures de la parole, dans la prière. Et pas prier uniquement pour toi, mais prie pour tes frères, pour tes sœurs dans l'église. Prie pour ceux qui œuvrent. Prie pour ceux qui sont perdus. Pour que le Seigneur nous aide à vivre cela. Et je vais me taire là maintenant et je vais donner quelques minutes de silence pour vous permettre de dire ce que le Seigneur a pu vous montrer. Dites-le au Seigneur. Dans le silence, chacun dans son cœur.